Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. On va parler maintenant des médecins de famille. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le nombre de médecins de famille qui choisissent de se désengager du système public, c'est-à-dire de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, et qui choisissent le privé, ce nombre de médecins de famille augmente de plus en plus. On a des chiffres, c'est ça qui m'a frappé hier, en regardant les chiffres de 2014, ils étaient 199 médecins de famille, donc des omnipraticiens, des médecins généralistes. Aujourd'hui, ils sont 106 de plus, 305 la dernière fois qu'on a compté cette année. Donc, c'est une augmentation de plus de 50% de médecins omnipraticiens. Donc, la première ligne de médecins, votre MD généraliste, celui que vous n'avez peut-être pas, votre médecin de famille, qui se sont désengagés. On dit que chaque médecin omnipraticien traite environ 1000 patients. Ça veut donc dire que depuis 4 ans, il y a 106 000 patients qui auraient pu être prises en charge, qui ne le sont pas. D'où peut-être aussi ce problème qu'on a à en trouver. Il y a encore beaucoup de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, qui attendent toujours sur le fameux registre. Donc, est-ce que c'est un mur qu'on risque de frapper bientôt? C'est ce que dit en tout cas la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui dit que c'est une hécatombe parce que premièrement, il y a beaucoup de médecins qui vont à la retraite et qu'on ne peut pas remplacer. Alors, même si on forme des jeunes médecins, on n'en forme pas assez pour compenser ceux qui partent à la retraite. Justement, c'est le cas de notre docteur, Christiane Laberge. Bonjour, Christiane.
Bonjour, Isabelle.
Une bulle qui m'a passée dans le cerveau.
Oui.
Et pourtant, mais ça doit être la journée. Écoute, ça doit être ça. Pourtant, je ne fume pas. Christiane, qui va? J'ai appris ça. J'avais oublié que tu vas bientôt prendre ta retraite. Ça se peut pas.
Tu as oublié que je vieillissais?
Ben, ça se peut pas. Tu devrais pas avoir le droit, Christiane.
Je devrais pas avoir le droit. Ben non, c'est ça. Ben, malheureusement, ou heureusement, oui, mais ça sera l'été prochain, là.
C'est vrai?
Mais effectivement, c'est très difficile de rester médecin de famille actuellement dans le contexte qu'on vit. Et à force de rentrer dans le mur, à un moment donné, tu dis, bon, OK, j'ai le choix entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Puis à un moment donné, on est de la génération qui travaillait des 70 heures, des 60 heures par semaine. Là, on travaille à temps partiel à 30 heures, là. Ça fait que effectivement, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez.
Ah oui, donc, mais il y a un peu d'écœurantite là-dedans, alors, de ce que j'entends.
Je t'avoue. Je m'ennuie de mes patients. C'est clair que la relation de médecin-patient, c'est sûr que ça va me manquer. À chaque fois, on vit un deuil quand on sait que c'est la dernière fois qu'on se voit. Mais à un moment donné, effectivement, c'est de l'écœurantite du système.
Ah oui. On a avec nous le président de la Fédération des médecins résidents du Québec, donc nos futurs médecins. Christopher Lemieux est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal.
Quand vous entendez le docteur Laberge parler un peu de trousse comme pas assez, puis on a comme poussé le bouchon un peu trop fort, on en a trop demandé aux médecins de famille, vous vous dites quoi, les jeunes médecins, là, les futurs, là, qui vont travailler pendant les 30 prochaines années? Est-ce que vous partez découragé?
Ben, je vous dirais que ça résume assez bien la situation. Comme Dr Laberge vient de le dire, la situation dans les dernières années est de plus en plus difficile, puis qu'on pense, nous, en fait, à la Fédération en partie, c'est que ça impacte aussi sur le désir des étudiants en médecine d'aller justement en médecine, pratiquer la médecine familiale, parce que la pratique de la médecine familiale a énormément changé depuis 3 ans. Et si on veut, pour les futurs médecins de famille, c'est difficile d'entrevoir une pratique, harmonieuse, comme il l'avait envisagé, une pratique diversifiée, faire un peu de tout, alors que toutes nos forces ont été dirigées vers la prise en charge, qui est un réel problème au Québec, mais il y a aussi d'autres domaines de la pratique de la médecine familiale qui ont été un peu mis de côté. Et on l'a vu dans les derniers mois, on essaie de rattraper finalement les faux pas qu'on a fait depuis environ 3 ans, mais on n'y arrive pas parce que c'est difficile. Des médecins de famille, ça se forme pas en criant ciseaux. Comme vous l'avez dit en début d'entrevue, ben là, il y a aussi quelques médecins qui, devant ce qui se passe au niveau du public, décident de faire le pas vers se désengager là, vers la pratique privée. Évidemment, ça représente 3% des médecins de famille, ce qui est quand même un petit nombre, mais c'est quand même.
Mais il y en a plus qu'il y en avait. Fait que c'est donc une tendance qui se confirme. À une certaine époque, il y a 20 ans, c'était très, très, très marginal. Là, en 4 ans, je veux dire, c'est une grande augmentation. Fait que c'est sûr que, bon, il y a des médecins qui disent, OK, ben moi, je suis médecin de famille, mais je me ferai pas écœurer par le système public, donc je vais aller au privé. Mais là, c'est quand on parle de système à deux vitesses, ça se confirme, là.
Oui, mais par contre, c'est le système public qui a mené à ça. Quand tu regardes, par exemple, dans un CLSC où tu as changé de secrétaire 20 fois en 10 ans, et qu'on sait que l'accueil du système, ça passe par l'accueil de la première personne que tu vas rencontrer, et que cette personne-là est inadéquate, ou elle est incompétente, ou elle est en maudit tout le temps, ben l'accueil part déjà en dérapant. L'autre chose, c'est quand tu regardes la confirmation des rendez-vous, c'est pas mon problème. Bien, c'est pas mon problème. On peut avoir de 10 à 30 d'absence quand les patients n'ont pas de confirmation de leur rendez-vous. L'autre chose, c'est que dans notre système, essaie d'annuler un rendez-vous pour le fun. Tu vas voir que c'est difficile en tabarouette, puis des fois, tu n'arrives même pas à l'annuler. Donc, on a des plages horaires qui sont vides, alors qu'il y a de la disponibilité pour voir des patients. La prise en charge, ça demande de connaître théoriquement ton médecin, mais si tu passes toujours à la clinique à un médecin différent, même si tu es un médecin de famille, est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu vas du point A au point B? Et on nous disait récemment qu'il y a beaucoup de patients qui viennent au 100 rendez-vous pour vérifier si l'autre a dit la même chose que l'autre. Donc, on commence à avoir ce que j'appelle une médecine McDo. Tu as un problème? Un problème. On va régler ça au 100 rendez-vous, vite fait sur le gaz. Par contre, est-ce qu'il y aura un lien? On sait, il y avait des études qui nous prouvaient que quand on passait 20 minutes à faire le tour de la personne avec son engagement, on évitait 6 visites. Cette statistique-là n'a plus l'air vraie. Donc, on a été vers vite que l'accès adapté pour répondre au chiolage, entre guillemets, qui, aux frustrations qui étaient vraies, qui étaient réelles, là. Mais la prise en charge réelle se fait-elle encore? Il y a des médecins qui sont, par exemple, plus âgés, qui ont peut-être 40 ans, et qui sont maintenant en soins palliatifs. Mais ils doivent se diviser entre l'hôpital, les soins palliatifs, la prise en charge, parce que tu es obligé, on a déterminé qu'il y avait des besoins. Donc, on a dit, bon, les médecins de famille, vous allez combler les trous. Fait que quand tu n'as pas de spécialiste, tu prends un médecin de famille.
C'est ça.
Tu sais, les places où il manque des obstétriciens,
c'est pas un
compliqué,
peu...
les médecins, vous allez accoucher.
Oui, c'est ça. Et justement, donc, on a un peu tapé trop sur le médecin de famille qui s'est écœuré, qui se désengage quand il part pas à la retraite.
Oui, parce qu'il est encore passionné de ce qu'il fait, mais on ne lui permet plus de se passionner.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir les médecins, docteur Lemieux?
Bien, en fait, je pense que c'est de revenir à ce qu'on faisait déjà il y a quelques années, là, dans le fond, s'assurer que les médecins puissent avoir une pratique selon leurs intérêts, une pratique diversifiée. Mais aussi, je rejoins un peu ce que Dr Laberge vient de dire, c'est une question de ressources aussi. Il faut leur donner les ressources aux médecins pour être efficaces. On ne peut pas juste leur demander « travailler, faites tout ce qu'il y a à faire », mais sans donner ce qui vient avec pour assurer une pratique efficace.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, puis vraiment, là, vous me direz comment voyez ça, mais je sais qu'avant, bon, vous disiez, les médecins de famille, on pouvait faire toutes sortes d'autres choses avant. Vous-même, vous faites une résidence en ce moment en hémato-oncologie, donc vous allez être un spécialiste, c'est bien ça? Puis vous représentez à peu près 3600 résidents, dont le quart sont en médecine familiale, donc 1 sur 4. Ça veut dire que vous dites, bon, avant, on pouvait faire de l'urgence obstétrique, on pouvait faire de l'urgence en hospitalisation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, les médecins ont tendance à dire, ben, je vais aller en spécialité parce que être médecin généraliste, c'est devenu plate, finalement. Donc, est-ce que c'est pas de redonner certains actes médicaux qu'on a donnés aux spécialistes? En fait, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a comme aussi eu des fédérations médicales, beaucoup la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui a tiré beaucoup la couverture de son côté en disant, même aux médecins de famille, faites plus ça, c'est à nous que ça revient.
Non, ça joue pas.
Non,
c'est pas du tout là. En fait, c'est beaucoup plus la base que le plafond. Quand on a des spécialistes, on a besoin parce que il y a la blague tout le temps qui dit le spécialiste en connaît de plus en plus sur de moins en moins de choses, puis le médecin de famille, c'est le contraire, on en connaît de moins en moins, mais sur de plus en plus de choses.
Mais c'est donc, ça le propre du généraliste?
Ben, le généraliste,
c'est ça le propre du spécialiste aussi.
Famille.
Ouais.
Donc, théoriquement, on a perdu un peu cette notion de médecin de famille.
Ouais, c'est sûr.
Pour en faire un généraliste.
Un généraliste.
Il devrait tout savoir et papillonner là-dessus. Malheureusement, on ne peut pas tout savoir aujourd'hui.
Ouais.
C'est impossible avec les notions dont on devrait disposer. Donc, on a besoin des spécialistes. Et ça, la relation avec les spécialistes, à la limite, c'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est que le médecin de famille par exemple, va se faire dire où pratiquer, comment pratiquer, qu'est-ce qu'on veut de lui. Puis il doit avoir des ententes, puis de la paperasse, puis toutes sortes d'affaires. Avant, si j'avais besoin d'un hémato-onco, j'ai une patiente qui fait de l'anémie, je prenais le téléphone, j'appelais le docteur, puis je disais, écoute, j'ai une patiente qui va vraiment pas bien, j'aimerais pas que tu la voies, peux-tu la voir? On faisait un papier de consultation, on se parlait. Là, il faut passer par le centre de référence des spécialités qui décide si c'est justifié, puis dans deux petites lignes, il faut que j'explique ce pourquoi j'envoie le patient. Puis des fois, on me demande, bien, vous devriez faire, là, c'est marqué échographie requise avant de référer le patient. Une échographie actuellement, juste pour le musculo-squelettique, là. Il y a 13 000 patients qui attendent pour une écho musculo-squelettique. Donc, avant de voir l'orthopédiste, par exemple.
Donc on fait plus confiance aux médecins de famille, c'est ça que tu dis, Christiane?
Bien, genre. Ben, et ça, deuxièmement, t'as aussi, comme je te dis, le personnel clérical, c'est hyper important. Quand tu prends un docteur et tu dis, fais-les toi-même, bien, t'écris les étiquettes sur les tubes, puis t'envoies tes fax. Puis, rappelez Mme Tremblay. Mme Tremblay, elle veut quoi? Bien, elle veut vous parler. Non, ma grande, regarde, tu vas filtrer un petit peu, parce que je vais passer 2h30 à parler au patient, alors que tu aurais pu répondre.
Oui, docteur Lemieux, là-dessus?
C'est ça, j'allais dire, il y a une lourdeur administrative quand même assez impressionnante, justement, comme entre les pour la consultation.
Et là, c'est plus une lourdeur, c'est un mur.
En fait, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, ce qu'il faut garder en tête aussi, là, c'est que là, la pratique de la médecine familiale depuis trois ans, parce que c'est depuis 3 ans qu'il y a eu le fameux projet de loi 20, puis il y a une cohorte complète de résidents en médecine familiale qui se sont fait attribuer des postes, qui ont dit « Hey, mon grand, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir travailler. » Là, on t'accepte, on donne une offre, et 2 semaines plus tard, le gouvernement décide « Ah non, finalement, le processus que vous venez tous de faire, on détruit ça, on oublie ça. » Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez tous faire de la prise en charge, peu importe ce qu'on vous avait promis avant. Alors, ça a amené cette idée depuis 2 ans. Il y a une incertitude énorme pour les gens qui se sont. Il y a beaucoup de résidents et d'étudiants en médecine qui sont intéressés à la médecine familiale, mais cette incertitude-là, je vous dirais, c'est quand tu acceptes d'aller en médecine, en fait, quand tu appliques en médecine familiale, c'est 2 à 3 ans avant que tu puisses aller sur le marché du travail. Mais dans ces 2 à 3 ans-là, finalement, si on change toute ta pratique, ce que tu visais, ce que tu voulais faire, à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt. Puis on voit qu'en médecine spécialisée, il y a des choses qui ont bougé, mais ça n'a pas été aussi intense que ce que les gens en médecine familiale ont vécu depuis 3 ans.
Puis l'autre chose, c'est qu'ils ont dit que les spécialistes vont prendre les hôpitaux, puis on va sortir les médecins de famille de l'hôpital pour qu'ils fassent la première ligne, ce qui était très logique. Mais dans les faits, c'est pas ça que c'est passé. C'est que les médecins de famille doivent couvrir encore les urgences, doivent encore couvrir les étages dans les petits hôpitaux où il n'y a pas assez de spécialités pour aller régulièrement. Donc, on a continué en augmentant la prise en charge, puis en gardant les mêmes autres compétences. Mm-hmm. Donc, c'est ça où les gens sont à bout de souffle aussi.
Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de médecins de famille qui se désengagent. On a Pierre avec nous avant la pause. Pierre, vous dites qu'il faudrait peut-être regarder ce qui se fait ailleurs pour garder nos médecins de famille au public.
Ouais, ben j'ai vécu en France pendant quelques temps là, puis c'était assez intéressant de voir comment ils faisaient ça. C'est-à-dire que si tu as la sécurité sociale, si tu es citoyen français par exemple, ben tu payes le médecin au privé et tu es remboursé par la sécurité sociale après. Un peu comme on fait dans nos écoles privées ici, l'enfant s'il va à l'école privée, on paye la différence entre ce que le ministère de l'Éducation paye à l'école privée pour un enfant qui coûterait quelque chose de toute façon au public. Mmh. Et la différence, ben, c'est évidemment les parents qui l'assurent.
Ouais, merci beaucoup, Pierre. Bonne suggestion. On a besoin de vous parce qu'on cherche des idées ce matin. Est-ce que vous avez des idées pour retenir nos médecins de famille au privé? 514-790-9850. Pardon, au public. 514-790-9850 et sans frais 1-866-790-9850. Bien sûr, au public. Ceux qui sont au privé, qu'on les ramène et éviter que ceux qui soient au public soient attirés par le privé. À tout de suite, tout le monde. Bon, on cherche des idées là, pour essayer de retenir nos médecins de famille au public. Il y en a beaucoup qui sont tentés de se désengager de la RAMQ et d'aller au privé. Puis je vous donnais des chiffres tout à l'heure. Il y en avait 199 qui étaient désengagés du public en 2014. Puis 4 ans plus tard, ils sont pas mal plus, 305 la dernière fois qu'on a compté. Donc, ça fait quand même pas mal de médecins qui ne sont plus dans le système public, qui sont en cabinet privé, puis qui s'arrangent avec leurs affaires, puis ils ont la paix. C'est ça le message qu'on nous dit. Je suis en compagnie du docteur Christiane Laberge, également du docteur Christopher Lemieux, qui est président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Raymond, vous dites avant d'essayer de trouver des idées, il faudrait peut-être leur envoyer un message qui soit plus disponible pour nous, les patients. C'est ça que vous dites?
Ben, en fait, oui, plus disponible, puis plus coordonné.
Mais s'ils sont pas assez nombreux, c'est sûr que là, ça devient difficile.
Oh. Oui, je suis d'accord, mais sauf que je te donne l'exemple, là, mon épouse a un problème de fibrillation auriculaire, elle demande à voir son médecin, elle se fait dire au mois de mai que son médecin ne sera pas là jusqu'au mois de septembre parce qu'elle veut rester avec ses enfants. Je suis d'accord avec ça, j'ai aucun problème. Aucune personne pour faire le suivi de ses dossiers. Mm. On dit, va t'inscrire à la clinique d'urgence au premier plancher. Elle va pour s'inscrire là, ils ont dit, ben c'est complet, rappelle le mois prochain. Clinique d'urgence, rendez-vous, c'est quoi rendez-vous, clinique d'urgence? Oui. Le mois prochain, rendez-vous, c'est quoi le problème? Fait qu'on est allé en clinique privée, puis là, ben après deux mois et demi, là, parce qu'elle allait pas bien, puis là, en clinique privée, le jour même, après avoir pris les tests de sang, ils l'ont appelé, puis ils ont dit, va-t'en à l'urgence à l'hôpital tout de suite.
Ah oui, c'est ça. Ben oui, effectivement.
C'est la responsabilité des médecins, là.
Ouais. Docteur Laberge.
C'est juste une machine à faire du cash.
Ouais. Non, c'est pas.
On lui dit, inscris 1500 patients, là, puis on va te donner 250 000 piastres. Puis après ça, ben arrange-toi le patient comme tu veux. Là.
Je comprends votre frustration. Vraiment, docteur Laberge là-dessus, puis docteur Lemieux après.
Tu parlais de la situation au privé.
Ouais.
Actuellement, moi, les collègues que j'ai rencontrés la semaine passée au congrès quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des collègues qui ont quitté le public, que ce soit un milieu de CLSC ou un milieu de bureau, qui sont allés au privé pour trois raisons. La première raison, d'abord, au niveau financier, c'est pas plus intéressant. On part avec ça, OK? Tu gagnes pas plus au privé, en général, comme médecin de famille, que tu gagnes au public.
Non, mais ce que je comprends, c'est que personne t'écœure.
Ben,
ça n'a pas de prix, ça, pas se faire écœurer.
Ce que les gens ont retrouvé, Isabelle?
Ouais.
L'équipe. Mm. L'équipe stable. L'équipe qui a le goût de travailler pour le client, pour le patient. Tu comprends?
Mais pourquoi ils n'ont pas le goût au public? Pourquoi ils n'ont plus le goût au public?
Parce que, ben, regarde, nous autres, on était habitués, là, peut-être que ton invité va t'en parler plus, mais moi, j'ai travaillé toujours en équipe. Tout le temps.
Ouais.
T'avais l'infirmière, t'avais l'inhalo. Quand t'es à l'urgence, t'as tout le monde. Et t'es habitué, tu dis, OK, à soir, on est en affaires, c'est chose qui te garde, c'est lui, c'est elle, c'est OK, ça va rouler sur un discerne. Par contre, t'arrivais avec une personne qui arrivait de l'équipe volante ou n'importe quoi. Là, t'avais un petit peu de sable dans l'engrenage, mais le reste de l'équipe ramassait ça. Là, tes infirmières sont brûlées. Les gens qui travaillent avec toi, actuellement, on les considère comme des pions. Mmh. On les déplace. Envoie sur ça. Puis le docteur, envoie là. Fait que t'as plus d'équipe. T'as plus de capacité de collaborer de façon stable.
Mais ce que j'entends, Raymond, aussi, c'est qu'il parle aussi de cette nouvelle génération de médecins. Puis là, docteur Lemieux, j'aimerais vous entendre là-dessus, puisque vous êtes représentant de la Fédération des médecins résidents du Québec. On parle de la qualité de vie que les médecins, maintenant, demandent. Docteur Laberge rappelait d'entrée de jeu tout à l'heure qu'elle est de l'époque où c'était 70 heures, puis tu regardais pas ton temps, puis tu étais médecin, puis c'était une vocation. Aujourd'hui, il nous parlait de sa médecin de famille qui, visiblement, voulait prendre l'été avec ses enfants. Puis, je veux dire, on respecte ça, on juge pas ça, mais peut-être qu'à ce moment-là, la profession médicale est peut-être pas celle qui était la plus appropriée. Peut-être qu'il valait mieux être prof ou autre chose. Mais est-ce qu'il y a de ça aussi? C'est-à-dire, les nouveaux médecins, vous dites, ben là, moi, je n'ai pas envie de me faire écœurer, puis je veux pas travailler 70 heures semaine?
Ben, je pense que c'est un mélange d'un peu de tout, là. C'est sûr qu'il y a des situations particulières, évidemment, qu'on peut. On peut pas tout commenter, mais je pense.
Mais ça, je l'entends souvent, ça, le fait que les médecins sont pas disponibles parce qu'ils font d'autres choses.
Oui, mais en fait, c'est ça. Ils font un peu de tout, mais des fois aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, oui, il est peut-être pas au bureau, mais il est peut-être aussi à l'hospitalisation ou fait peut-être autre chose. Mais je pense que globalement, le problème du public actuellement en médecine familiale, c'est la lourdeur dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Puis le manque de ressources. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est moi ici en oncologie. Ce qu'on voit, c'est que au Québec, on a décidé que l'oncologie, c'était une priorité, donc on a mis les ressources pour que les médecins aient de l'aide, que ce soit des pharmaciens, des infirmières pivots. Et je pense que toutes les personnes qui ont été traitées en oncologie au Québec, la majorité vont vous dire qu'ils ont eu des très bons soins, ils ont eu un bon suivi, ils ont eu des personnes disponibles pour les aider.
Mm.
Mais la première ligne, présentement, les gens, tu sais, oui, ça arrive souvent, puis je l'entends aussi. Des fois, j'en parle à mes patients, on leur demande, bon, ben quand est-ce que vous pouvez voir votre médecin de famille? Ben, il n'est pas disponible. Mais c'est pas de la mauvaise foi. Je pense que c'est juste que c'est les gens, on leur demande de travailler, de voir des patients, de faire de la prise en charge, mais les visites de suivi, ben, à ce moment-là, c'est plus difficile pour eux de les rentrer dans leur horaire. Alors, question qu'on fournirait les ressources justement pour essayer d'être plus efficace. Mais je pense qu'on réussirait à éviter ce genre de situations-là qui sont vraiment problématiques. Puis pour ce qui est de répondre à la question de la pratique des nouveaux médecins, bien, je pense que les mentalités ont changé. Les gens sont axés un peu plus sur un équilibre de vie. Est-ce que c'est mauvais? Je ne pense pas. C'est parce que la médecine a évolué aussi dans les 20, 30, 40 dernières années. Le nombre de connaissances à acquérir est totalement différent. La pression aussi est différente. Fait que je pense que ça, évidemment, c'est clairement pas la majorité des médecins qui vont prendre leur...
Mais si un médecin de famille à l'époque de Christian de Laberge faisait 70 heures semaine, ça va en prendre pas juste un, mais deux pour faire la même tâche de travail aujourd'hui, là, selon les nouveaux critères de qualité de vie des médecins d'aujourd'hui, Christian.
C'est générationnel, hein, parce que les postes de police actuellement, partout où tu as des trois quarts de travail par jour, donc du 24-7, tu as de la difficulté à recruter. Regarde les admissions nouvelles en nursing, regarde les admissions nouvelles en technique policière, regarde les admissions nouvelles à l'école de police, partout où tu as des trois chiffres à couvrir, tu as une diminution. Actuellement, j'ai une patiente qui est en recrutement d'emploi, là, tu sais, elle fait du recrutement. Quand elle téléphone aux gens, d'abord, ils veulent pas rentrer s'il n'y a pas un salaire X, puis d'autre part, ils veulent pas rentrer de soir, de nuit. C'est pas possible. Non, je veux pas. Donc, on est en manque de main-d'œuvre au Québec, mais en manque de main-d'œuvre de quel type? Je pense que c'est généralisé que les gens veulent plus travailler de soir, veulent plus travailler de nuit, et c'est légitime, sauf qu'il y a des tâches qui vont avec... Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la tâche que d'avoir des trois chiffres à couvrir. Donc, c'est un peu partout que ça se passe.
En
médecine, effectivement, les équipes, c'est hyper important et on a détruit les équipes. On a fait des gens qui étaient des pions, on les déplace n'importe où. Nos bons fonctionnaires ou la barre est titre, là, c'est on va vous obliger à faire ça. L'autre chose, c'est que dans les groupes de médecine de famille, il y a des oublis qu'on a eus. Tu peux avoir un groupe de médecine de famille où tu as 6 médecins, par exemple, ou 8 médecins. T'en as une qui est partie en congé de maternité, légitime. L'autre a fait un problème cardiaque, elle a été 8 mois absente. L'autre a fait un cancer du sein, elle était 1 an absente avec sa chimio-radio. Mm-hmm. Comment tu combles?
Puis l'autre était déprimé patients. Comme un médecin sur deux, ça a l'air.
On part pas d'habitude, on roule ses genoux. Un docteur déprimé, là, il va arrêter en moyenne 3-6 mois après le citoyen ordinaire.
Ouais, ouais. On a Stéphane qui est avec nous. Stéphane, vous dites, de ce que je comprends, c'est assez radical, votre choix. Allez-y.
Ouais, mais en fait, moi, c'est ce qu'on veut là, c'est vraiment avoir un accès aux soins. J'ai personnellement habité aux États-Unis pendant 5 ans. Une assurance familiale me coûtait à peu près 1 000 $ par mois, donc 12 000 $ par année. Ici, si je comprends bien, là, puis vous me corrigerez, mais pour un revenu familial de 100 000, il y a à peu près 50 000 d'impôts qui est payé. Sur le 50 000 de mémoire, c'est à peu près la moitié qui s'en va au système de la santé, donc 25 000. Il y a un 25 000, il y a un 12 000, là, 12 500 là, que...
De si trop, c'est ça, vous
dire. Ça là, selon moi, là, ça reviendrait moins cher au bout de la ligne pour le citoyen. Puis, tu es traité comme un client au lieu d'un patient et des services, t'en as.
Faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a une grande marge de la population qui a zéro service.
Oui, puis ça...
attention, si j'ai un cancer aux États-Unis et que je suis assistée sociale, j'ai besoin de me lever de bonne heure avant de me
faire. Non, c'est sûr, c'est toujours ça. Puis on pourrait rappeler, Christiane, qu'en général, probablement que Stéphane est assez jeune pour pouvoir dire qu'il coûte pas trop cher au système.
Exact.
Et on sait que c'est quoi? C'est plus de 50 % des coûts, c'est dans les 10 dernières années avant notre mort, là, c'est-à-dire...
C'est tout âge confondu, c'est dans les 6 mois, mais c'est âge confondu. Donc, le grand prématuré coûte proportionnellement plus cher que grand-maman de 85 ans qui est autonome et qui lave son plancher à genoux.
Oui.
Wow. Donc, au niveau de la santé, on va mettre énormément de ressources pour les gens pour essayer de les, en guillemets, sauver. Mais cela dit, qu'est-ce qui va faire que tes médecins vont s'en aller au privé? Qu'est-ce qui va faire que les médecins vont mettre le pied contre le mur puis dire « j'en ai assez » puis « je vais faire ce que je dois faire, mais je te jure que j'en ferai pas plus » c'est à force de se faire écœurer, à force de se faire dénigrer, à force d'être la seule et unique cause de l'échec du système de santé.
Non, il y a eu beaucoup de médecins bashing, puis écoute, c'est difficile de pas en faire quand tu es un patient qui doit être dans le système, parce que tu regardes ça, puis visiblement, je vous entends là depuis une demi-heure, tous les deux, deux médecins, puis finalement, je me rends compte que c'est pas parce qu'on a donné 7 milliards de plus en argent public aux spécialistes et aux MD qu'aux généralistes qu'on a avancé, puis ça a pas changé.
Il y a pas monde qui parle de la réduction de 30%, par exemple, les médecins ont eu en 85, hein? Il n'y a pas beaucoup, le gouvernement est arrivé et a dit, on coupe 30% flingue, de même.
De salaire?
Il n'y a pas beaucoup, oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du moment où on a mis les AMP en place, les activités médicales particulières, où tu n'avais plus le choix de pratiquer dans tel secteur, où on a mis les plans régionaux d'effectifs médicaux. Chez les spécialistes actuellement, si par exemple, moi j'ai un jeune qui vient de rentrer comme sur-spécialiste 2 ans aux États-Unis et il est rentré le 27 octobre, la première journée opératoire qu'on lui offrait, c'était le 27 juin qu'il est rentré, on lui offrait la première journée opératoire le 27 octobre. Ah, alors ouais, ouais. Là aussi, au niveau de nos spécialistes,
ça, c'est l'autre problème. Mais
il
ouais.
y a des problèmes qui sont énormes au niveau de l'attribution des postes. Si moi je veux partir à la retraite, par exemple, là dans le cas particulier, c'est correct, je suis vieille, mais supposons que je veux
arrête
changer
de dire ça.
Non, mais je suis au-delà des 35 ans. Non, mais je suis au-delà des 35 ans. Je rentre pas dans la statistique.
Mais t'as quoi? T'as 60?
65.
Bon.
Mais supposons que je suis un jeune.
Un petit 5 ans de plus, là, pour le public, un petit 5 ans, là, Christiane.
Mais si je voulais faire, par exemple, de la recherche, oui. Le plan régional d'effectifs médical, c'est un docteur égale un docteur. Si je suis un docteur en fin de carrière et je veux juste faire 2 jours semaine, je pourrais avoir un jeune qui fasse 3 jours
oui,
semaine.
Oui, tout à fait. T'as pas le droit de faire ça?
Non. Un docteur égale un docteur.
Ben, il va falloir revoir tout le système parce qu'il y a quelque chose
voilà.
qui marche pas. Merci.
Demande à ton jeune.
Ouais. Ben, justement, je voulais terminer avec le docteur Lemieux. Allez-y donc, oui. Christophe.
Ben en fait, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est tout simplement que la comparaison avec le système des États-Unis est difficile à faire.
Oui, c'est clair.
Faut pas oublier que le salaire moyen au Québec est loin d'être 100 000 $ par habitant. Là. Donc, c'est sûr que je pense que les États-Unis ont leurs problèmes. Notre système, on a nos problèmes. Évidemment, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le changement dans une grosse machine comme le système de santé, ça s'opère pas non plus en criant ciseaux comme on a essayé de le faire il y a 3 ans. Mais faut y aller petit peu par petit peu et je pense qu'éventuellement ça va s'améliorer.
Mais on va souhaiter ça parce que quand on regarde la pénurie de médecins là puis qui risque de s'aggraver, c'est la première ligne là, nos médecins de famille. Si vous en avez un, on va terminer ici, on va dire aux gens que si vous en avez un, prenez soin de votre médecin de famille. Ils sont rares par les temps qui courent. Merci beaucoup docteur Laberge, merci beaucoup Christopher Lemieux, président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Puis Christiane, 5 ans encore.
Merci, bye.
Merci à vous deux. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Il a été l'homme le plus fort au Canada. Je reçois Hugo Girard. Restez là, tout le monde.